mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littera 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, eh bien nous voici à nouveau avec des coups au cœur, c'est-à-dire des livres donc, que nous avons aimés à Littera, que nous aimerions vous faire découvrir. Aujourd'hui, il s'agit d'un auteur américain qui s'appelle Ron Rash et qui a écrit pas mal de livres avec aussi des romans policiers. Il est né en 1953, il est à la fois écrivain, poète, nouvelliste. Il est classé auteur de polar et il a reçu un prix de littérature policière, justement, en tant qu'auteur de polar. Dans chacun de ses livres, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il nous plonge dans l'Amérique profonde et il fait des portraits de personnages très attachants et il raconte des histoires vraiment ancrées dans la nature. Il a un lien très fort avec la nature, avec la terre, je dirais. L'eau, la rivière sont très souvent présentes dans ses romans. Mais c'est une eau qui souvent est surtout une menace, je dirais. Elle est source de tragédie. C'est une nature souvent hostile qui nous raconte, contre laquelle l'homme doit se protéger. Pour vous le faire découvrir, je vous conseillerais trois titres de Ron Rash. Le chant de la Tamassie, qui a été traduit en France en 2016. Une terre d'ombre, qui a été traduit en 2014. Et celui dont on va parler aujourd'hui, Par le vent pleuré, pleuré et accent aigu, qui est paru en 2017. Pourquoi ce titre ? C'est assez particulier, Par le vent pleuré et accent aigu. Le titre du roman en anglais est The Risen, qui veut dire la résurrection. Alors, c'est un titre qui passait pas trop bien, je dirais, la résurrection. De quelle résurrection s'agissait-il ? Et donc son éditeur a voulu changer le titre et c'est Ron Rash qui a choisi un morceau de phrase tiré d'une citation de l'auteur américain Thomas Wolfe. Je vais vous lire le prologue qui est assez particulier parce qu'il nous donne déjà un petit peu une idée de ce qui va se passer. Et c'est un très beau prologue. Elle attend. Chaque printemps, les fortes pluies arrivent et la rivière monte. Et son cours s'accélère, et la berge se désagrège toujours davantage, brunissant l'onde de son limon, mettant toujours une nouvelle couche de terre sombre. Des décennies passent. Elle est patiente, dans sa coquille de bâche bleue. Chaque printemps, l'eau clapote plus près, décolore les racines, dégage les pierres, et rafle et polie. Elle attend. Et un jour apparaît dans la berge un lambeau de bleu, puis plus de bleu encore. La pluie s'arrête et le soleil se montre. Mais elle est prête désormais, et la berge tremble un instant et se soulève. Et les filaments de bâche se déroulent, et elle se déverse dans le courant, et elle est libre. Des fragments d'os se rassemblent dans un remous, forment un bref collier. Le flot poursuit sa course vers la mer. Ça vous donne déjà une idée de l'écriture de Ron Rash, une très belle écriture, quand il décrit là le travail de l'eau, hein, de l'eau sur un cadavre, bien sûr, vous avez compris. Le premier chapitre, Eugène, 60 ans, se souvient. Il se souvient de cet été 1969, il était encore lycéen, donc c'est un homme de 60 ans qui va raconter ce qu'il a vécu quand il était lycéen, donc 17-18 ans. Était arrivée dans la petite ville de Silva, dans les Appalaches, une fille nommée Ligia. Il était au bord de la rivière en train de pêcher avec son grand frère Bill quand ils l'ont aperçu en train de se baigner nu dans la rivière. Dès le début, la faculté d'apparaître et de disparaître qu'avait Ligia a semblé magique. La première fois, il y a de cela 46 ans. C'était à Panther Creek, l'été qui a précédé mon entrée en première. Tous les dimanches, après la messe et le déjeuner chez notre grand-père Bill, mon grand frère et moi, nous enfilions un t-shirt et un jean coupé. Bill, c'est le nom du grand frère. Hein. Jetions notre matériel de pêche dans le pick-up Ford 1962 que nous avait acheté grand-père et partions vers l'ouest en sortant de Silva. Une fois franchi l'autoroute, nous nous enfoncions dans une forêt domaniale, puis nous roulions un bon kilomètre sur la route de gravier qui longeait la rivière. Cannes et moulinets s'entrechoquaient à l'arrière quand Bill s'engageait sur l'ancienne piste forestière. Des branches et de jeunes arbres venaient bientôt racler le capot et le pare-brise. Ensuite, il n'y avait plus de chemin, rien qu'une trouée entre les arbres dans laquelle Bill se faufilait avant de s'arrêter en faisant patiner les pneus. À même pas 3 kilomètres de là, on pouvait trouver dans la Tuxasigie, c'est le nom de la rivière, des truites plus grosses et des bassins plus profonds où se baigner, mais les truites et les plans d'eau d'ici nous suffisaient. Mieux encore, nous avions cette portion de la rivière à nous seuls et nous tenions à ce que rien ne change. Voilà pourquoi Bill se garait à un endroit où l'on n'apercevait pas le pick-up depuis le chemin. Nous nous glissions dans un fourré de rhododendrons dont les branches, en se rabattant parfois brutalement, nous laissaient des zébrures et des égratignures sur la peau. Au bord de l'eau, nous appâtions nos hameçons et lancions nos lignes vers l'amont, là où le courant qui ralentissait formait un bassin large et profond. Après ces heures où nous étions restés engoncés dans des costumes étouffants et assis sur des bancs raides, puis sur des chaises de salle à manger à dos droit, pénétrer dans l'eau et étendre bras et jambes était libérateur. Le soleil de midi tapait sur le bassin et lorsque nous y entrions, de l'eau jusqu'à la taille, la chaleur et le froid s'équilibraient comme sur un niveau à bulles. C'était la plus agréable des sensations de savoir que dans un instant, mais pas séance tenante, je plongerais dans le froid pour émerger ensuite dans la chaleur. Des années plus tard, en fac à Wake Forest, à l'époque où je me croyais encore capable de créer une œuvre littéraire, je composerai un poème médiocre sur ces matinées à l'église suivies du baptême de la nature. Nous avons attrapé 5 truites avant que Bill ne ressorte les poissons de l'eau, indiquant par là qu'il était temps d'y aller. Par un trou dans la voûte de feuilles, le soleil déclinant avivait l'éclat argenté de l'anneau métallique, enflammer les balafres rouges sur le flanc des truites. Un lustre dégoulinant, c'était ainsi que je le décrirais à ma mère le soir même. Bill a ouvert le couteau de combat ayant autrefois appartenu à notre père et en a bloqué la lame. Un bon entraînement a-t-il lancé, dans la mesure où, après l'année qu'il passerait encore à Wake Forest, il irait à Bowman Gray pour devenir non pas médecin généraliste comme notre grand-père, mais chirurgien. Je ramassais une serviette de plage sur le sable quand je l'ai vue. Il y a quelqu'un plus bas dans l'eau, là où la rivière décrit un coude, ai-je indiqué. Un pêcheur ? A voulu savoir Bill. Il a lâché la truite qu'il était en train de vider. Le couteau est resté dans sa main, tandis qu'il faisait quelques pas vers l'aval. Je ne vois personne. Une fille. Elle était dans le bassin, elle nous observait, et puis elle a plongé sous l'eau. Une fille ? Une gamine ou une fille genre de notre âge ? De notre âge ? En maillot de bain ? Je ne crois pas qu'elle portait quoi que ce soit. Rien, même pas en bas ? Rien sur la partie que je pouvais voir. Et il y avait quelqu'un avec elle ? Je n'ai pas eu l'impression. Bill a posé le couteau. « Bon, allons voir ça. » Mais le bassin était désert, sans une ride. Aucune trace de pas ne marquait le sable. « Dis-moi, frérot, tu ne serais pas allé fouiner dans l'armoire du cabinet de grand-père ?» C'est en qui, Bill ? Elle a pu ressortir de l'autre côté. Sur la berge d'en face, encadrée de rhododendrons, un bloc de granit aussi long et large qu'une porte de hangar s'abaissait vers la rivière. J'ai montré du doigt une ombre humide. On dirait que de l'eau a dégouliné sur ce rocher. Ça pourrait aussi bien être un rat musqué ou une loutre, a objecté Bill. Il est descendu le long de la rive, n'a rien remarqué, puis s'est enfoncé dans les bois, assez loin pour scruter la route de gravier. « Je n'ai pas vu de voiture », a-t-il signalé en revenant. « Alors, Eugène, d'où sortait-elle? Tu crois que c'est une sirène venue de l'Atlantique ?»« Quelqu'un a pu la déposer, ou bien elle a pu passer par la crête. Il y a des maisons là-bas. »« Des maisons, mais pas de camp de nudistes. » Bill a posé une main sur mon épaule, suffisamment ferme, pour que je ne puisse pas l'envoyer promener. « Il faudrait qu'on te trouve une vraie fille pour empêcher que tu t'en inventes une. »« Ça va, laisse tomber, je me suis trompée, ai-je reconnu, lassée d'être mise en boîte, mais me demandant tout de même si je ne l'avais pas imaginée. » Et pourtant, non. D'ailleurs, aujourd'hui, après toutes ces années, Ligia a une fois de plus fait une brusque apparition, quoique pas à Panther Creek, mais en première page du journal de notre comté, et sans paraître plus vieille qu'en 1969. Une sirène qui n'avait pas regagné l'océan, tout compte fait. Raison pour laquelle j'ai enfreint la règle que je me suis fixée de ne pas boire avant 5 heures de l'après-midi. C'est le matin, mais une pinte de Jack Daniels vide traîne sur la table basse à côté de la bouteille de vin d'hier soir. Il y a une heure, j'ai lu la manchette. Des restes humains identifiés comme étant ceux de Jane Moseley. J'ai replié le journal et je l'ai posé, retourné sur le canapé. J'espère maintenant que le whisky fera suffisamment tampon pour me permettre de lire l'article en entier. Je me suis glissé dans cette bouteille de whisky et j'y suis resté. Des années auparavant, un vendredi soir, j'avais entendu ces paroles au sous-sol de l'église méthodiste de Silva. Je n'avais encore jamais pensé ainsi au whisky. Mais c'est bien ce qu'on recherche, être suspendu dans cet éclat ambré. Ce qu'on recherche sans toujours y parvenir, parce que ce matin, je n'en trouve pas le chemin. Le cabinet de Bill ouvre à 9 heures. Lorsque sur la pendule de la cuisinière, la grande aiguille atteint son point culminant, je compose le numéro. La réceptionniste me répond que mon frère est au bloc. « Quand va-t-il en sortir ?»« C'est une opération en urgence, monsieur Matney. Je n'en sais trop rien. Dites-lui qu'il me rappelle dès son retour. » »« C'est noté. » »« Est-ce qu'il a un téléphone portable ou un beeper ?»« Votre frère ne répond pas aux appels pendant les interventions, monsieur. » Vous pouvez au moins lui envoyer un message pour lui demander de me rappeler ou alors me donner son numéro. Pendant quelques instants, la ligne reste silencieuse. Je vais lui envoyer un SMS, ronchonne enfin la réceptionniste. Quelqu'un à l'hôpital saurait peut-être quand Bill aura terminé, mais on ne me le dira pas au téléphone. Je n'ai pas faim, pourtant manger va m'occuper pendant que j'attends, alors je me force à avaler un bol de céréales. D'ailleurs, l'alcool et un estomac vide ne font jamais bon ménage. Jamais. Alors donc, c'est l'histoire de Bill et d'Eugène qui, un jour, en 1969, alors qu'ils sont jeunes hommes, rencontrent donc cette Ligia dans la rivière et tous deux très vite tombent sous le charme de cette adolescente, envoyée dans ce coin perdu par ses parents chez un oncle et une tante pour qu'elle échappe aux tentations de Miami, aux tentations de l'alcool et de la drogue qui l'attirent beaucoup. Et surtout que c'est l'été de ce qu'on appelait le Summer of Love, le mouvement hippie commencé en 1967 à San Francisco. Et Ron Rash nous explique, c'est tout l'esprit des années 60 concentré en un été. La luxuriance, la liberté, la drogue, le sexe, l'épanouissement. C'est le Summer of Love, l'été du tout est possible. Cela commence en juin, et puis en août, tout bascule avec le meurtre de Sharon Tate. C'était une jeune femme très belle, mariée à Roman Polanski, le metteur en scène, et qui a été assassinée en 1969 dans des conditions horribles, chez elle, par des membres de la secte dirigée par Charles Manson, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Ça avait fait le tour de la planète. Et puis il y a eu aussi l'histoire au moment d'un concert des Rolling Stones, un spectateur noir qui a été assassiné. Tout ça s'est passé à l'été 1967. Un mouvement qui n'était pas encore arrivé à Silva, où vivent Bill et Eugène. Et c'est Ligia qui va les initier à l'amour libre, à la sexualité sans entrave, et tous les outils qui vont avec, l'alcool, la drogue. Les deux frères, donc, qui vivent bien loin de ces révolutions, sous la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser séduire, bien sûr, par Ligia, celle qu'ils appellent la sirène, et vont être emportés dans le tourbillon des tentations. La jeune fille va bouleverser de fond en comble, je dirais, leur façon de vivre, leur vision du monde, et c'est elle qui va sceller à jamais leur destin. Avant de disparaître, la même année, aussi subitement qu'elle était apparue. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Le livre est construit sur des allers et retours entre l'année 1969 et 2015, où on a compris que Eugène avait des soucis avec l'alcool et où Bill est devenu un chirurgien très célèbre. Et c'est Eugène le narrateur, donc. Voilà, je vous rappelle le titre, Par le vent pleuré, de Ron Rash. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. All I've done so much wrong, but please give me strength to care.